Bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Toujours un plaisir de vous retrouver et de vous retrouver cette semaine, une dernière fois avant l'été, avant le retour de La Vie en BD en septembre. Et j'ai envie de dire qu'on commence, qu'on termine la saison un peu comme on l'a commencé, mais je n'ai pas vérifié si on l'avait commencé en club de lecture, alors ça fait boboche comme intro, mais bon, je l'assume. Alors, on la termine cette saison en club de lecture. On se retrouve à 5 cette fois-ci, petit accro à l'habituel, petit accro qui sera peut-être, qui sait, le prélude d'autres accros qu'on se permettra au fil de l'année à venir. Alors, on a le plaisir d'être les habitués du club de lecture. Alors, évidemment, donc on parle de Jérôme Vermette, salut.
Salut bien.
On parle d'Édouard Tremblay, salut.
Salut Raymond, salut des auditeurs.
On parle de Marco Duchesne, salut.
Bonsoir tout le monde.
On parle de moi-même, évidemment, Raymond Poirier, votre animateur régulier, et également une invitée spéciale qui est dans le grand panorama des libraires de Québec, Émilie Roy-Brière. Bonjour.
Bonjour Raymond. Bonjour les garçons. Alors,
et bien, et bienvenue officiellement dans ce club de lecture auquel tu apportes une touche d'un autre genre, donc ce qui ne sera pas...
On est plutôt calme pour une gang de gars qu'une fille qui est arrivée tout d'un coup dans la gang.
Et j'ai l'impression en fait que ça sent la fin de saison, là. Je ne sais pas trop, là, mais on est un peu post-Saint-Jean dans les ambiances de l'été qui s'en vient, de la grande pause qui s'en vient. Alors en fait, on fait une plongée et on va voir où ça va nous mener en fait, puisque Émilie, tu nous sors un peu, on en parlait à quelques-uns d'entre nous hors d'ordre, mais tu nous sors un peu l'impression de zone de confort ou de lecture qu'on aurait eu le réflexe de proposer. Je ne sais trop pourquoi, mais on ne s'était jamais lancé d'un côté vers la bande dessinée à saveur jeunesse et de l'autre vers un panorama de nouvelles héroïnes, puisque c'est le thème que tu as choisi, donc les nouvelles héroïnes de la BD jeunesse. Je mentionne donc les 4 titres que tu as choisis et qu'on discutera. Je fais la petite parenthèse pour ceux dont ce serait la première édition de La Vie en BD qu'ils écoutent. Mais donc, on propose 4 titres à ce club de lecture. Évidemment, les titres sont toujours annoncés à l'avance sur lavrbd.com et par la suite, après présentation de ces titres par la personne qui fait la sélection, on en discute au fil de l'heure. Et évidemment, on n'a pas invité Émilie simplement pour jaser BD avec elle, mais pour qu'elle nous propose, nous fasse découvrir des titres. Alors, les 4 titres qu'elle a choisi de mettre de l'avant avec ce thème, les nouvelles héroïnes de la BD jeunesse, c'est donc Courtney Crumpin, intégrale volume 1 de Ted Naïfet chez Aquileos, Zizi Chauve-souris, tome 2, 700 000 aventures par seconde de Louis Trondheim et Guillaume Bianco chez Dupuis, Raven et l'ours, volume 1 de Bianca Pinheiro à La boîte à bulles, et enfin Snapdragon de Kate Lee chez Kinaillé. Alors voilà pour les titres. Émilie, je te regarde vertement et je te demande, mais pourquoi diable nous as-tu fait lire ceci?
En fait, c'était pas mon idée. En fait, l'autre jour, j'étais chez Marco. Je me rappelle pas de quoi on parlait. Puis, je lui parle de la scène dans Raven et l'ours, dans laquelle Raven et l'ours rencontrent une sorcière qui s'appelle Bianca. Bianca a un immense livre qui s'appelle « Le Storyboard » qui dit exactement tout ce qui va se passer dans la suite de la bande dessinée. Mais pour savoir ce qui va se passer dans la suite de la bande dessinée, en fait, elle a un chat magique qu'elle va envoyer faire le tour de la page pour aller voir ils sont rendus à quelle page pour qu'elle puisse savoir quand le chat va revenir où est-ce qu'il faut qu'elle aille voir dans son immense livre. Là, je lui parle de ça avec feu et passion, comme d'habitude. Puis là, Marco est à côté de moi, il est en train de fumer la pipe, puis il dit « Ah, ouais, c'est une bonne idée, ça, pour La Vie en BD. En fait, je pense qu'on n'a jamais fait la BD jeunesse. » Puis ça reste là, on parle de d'autres choses, puis ça me reste dans la tête. Puis là, un peu plus tard à la soirée, je dis « OK, mais mettons, je sais pas, moi, c'est des chauves-souris, en avez-vous déjà parlé? Y a-tu juste moi qui tripe là-dessus, tu sais? Ah non, j'avais pas pensé à ça, ouais, je vais m'en rappeler, merci, c'est vraiment cool. » Puis là, le lendemain, ça continue à me rester dans la tête. Là, je finis par y envoyer un message pour lui dire « Ah ouais, puis mettons, Courtney Crumpin, avez-vous déjà jeté de ça? » Puis Marco finit par me répondre « Écoute, si c'est pour être de même, t'as fera toi-même l'émission sur la BD jeunesse. » Et donc, c'est ça que je fais. Et il fallait que je trouve une jolie thématique pour rassembler tout ça. Je me suis rendu compte, en fait, que c'était 4 bandes dessinées dans lesquelles le personnage principal était une fille. Et donc, c'est ça que ça donne, ce mashup fabuleux, les nouvelles héroïnes de la bande dessinée jeunesse.
Ils ont tout un petit peu quelque chose de toi, d'ailleurs. Hein?
Tu trouves?
Ouais, je sais pas pourquoi j'avais l'impression de te retrouver beaucoup dans ces albums-là.
Et peux-tu nous les présenter justement un petit peu là, avant qu'on tombe dans les commentaires et dans la discussion? Donc, petit panorama de ce que tu nous as fait découvrir.
Oui, en fait, Ravonne et l'ours, c'est l'histoire d'une petite fille qui a 7, 8 ou 9 ans. C'est vraiment comme ça qu'on nous la présente au début de la bande dessinée. Elle est à la recherche de ses parents. Elle va se présenter dans la caverne d'un ours, comme ça, par hasard, pour lui demander s'il ne les aurait pas vus. L'ours lui dit non, j'ai pas vu tes parents. Qu'est-ce que tu fais ici? On t'a jamais appris qu'il faut pas se présenter dans la caverne d'un ours qu'on connaît pas comme ça sans s'annoncer. Franchement, ça pourrait être dangereux. Étant donné qu'elle a pas l'air de s'inquiéter, il va décider de l'accompagner dans plusieurs aventures différentes. En fait, chaque bande dessinée est une aventure différente. Pour Zizi Chauve-Souris, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Suzy Wendell. Un jour, elle est occupée à se faire sécher les cheveux dans le vent parce que c'est une journée où il y a énormément de vent, puis elle essaie de se faire une coiffure un peu comme une star d'Hollywood. Il y a une chauve-souris qui va se prendre dans ses cheveux et la chauve-souris va décider de rester parce que ça sent bon. Ensuite, pour Courtney Cromrin, c'est une bande dessinée américaine. Il y a Courtney, dont les parents se sont fait évincer de leur appartement, si je me rappelle bien. Ils vont aller habiter chez l'oncle de la famille qui, de toute façon, possède une immense maison. Ils vont pouvoir habiter là comme des parasites. Courtney va apprendre que son oncle Aloysius est un sorcier et elle va apprendre la magie avec lui. Puis la dernière, en fait, c'est une bande dessinée qui vient tout juste de sortir. Snapdragon, c'est une jeune fille qui a trouvé des bébés opossums. Elle va aller voir une espèce de vieille dame qui habite au fond du village, qui s'appelle Jax. On prétend que c'est une sorcière, mais elle a été capable de s'occuper de son chien quand son chien était blessé. Donc, elle va lui apporter les bébés opossums qui ont perdu leur maman. Puis, Jax va lui dire... écoute, toi, tu vas t'occuper des opossums, mais moi, je veux bien les héberger. Et donc, les deux vont apprendre à se connaître progressivement. Puis, on va se rendre compte que Jax est importante dans l'histoire de la famille de Snapdragon, sans que Snapdragon ait aucune idée de ce qui s'est passé autrefois. Mais elle connaît sa grand-mère, elle connaît sa mère. Il y a un secret un peu magique au travers de tout ça. Donc, c'est les quatre bandes dessinées que je vous proposais.
Alors, les quatre bandes dessinées sont présentées. Et là, c'est généralement le moment où on se dit qui va commencer? Mais je pense qu'après quoi, pratiquement 2 ans de club de lecture, on sait que c'est Édouard qui va commencer.
Évidemment, comme le veut la tradition. Et donc, si vous permettez, bien sûr, je vais me lancer de nouveau. Déjà, d'entrée de jeu, j'ai beaucoup, beaucoup aimé les quatre BD. Là, je les ai dévorés d'un bout à l'autre. Si bien, et au-delà des personnages féminins, justement, qui est moi-même un cheval de bataille que je défends, dans lequel je farfouille beaucoup du côté du manga, où il y a énormément de travail qui s'est fait là-dessus depuis les dernières années. J'ai aimé, bien sûr, aussi cette touche de magie, je pense, qui est omniprésente dans les quatre, à divers degrés, il va s'en dire. Mais je commencerai en fait purement par un choix complètement aléatoire. En fait, le premier que j'ai lu, c'est-à-dire Snapdragon. Snapdragon qui m'a frappé en fait comme un 18 roues. Dans la mesure où ça m'a vraiment remis à la page de ce qu'est maintenant une BD jeunesse. Ça m'a tout de suite replongé. Et puis là, je repensais à mon enfance et puis je pensais à genre Boule et Bill. Qui serait, mettons, le pendant. Il me disait, Boule et Bill, OK, t'avais un petit garçon, un petit chien, une famille nucléaire, une tortue pour faire exotique, that's it, that's all. C'est tout ce que t'avais besoin parce que 90% du monde, c'était une réalité auquel il s'identifiait. Et c'est là, je pense, d'emblée, le génie et la beauté de Snapdragon, c'est que maintenant, une jeune personne a composé avec une réalité qui est tellement différente, qui est tellement loin du petit nucléus archétypal qu'on connaissait. Et c'est toute cette réalité-là, je trouve, qui est magnifiée dans Snapdragon, qui est amenée par les personnages, par la quête d'identité, bien sûr, par la situation de la mère, par tout ce contexte-là qui est épouvantablement attachant et extrêmement, extrêmement fin et intelligent, à mon avis. Et donc, on voit, comme je disais, clairement l'immense gouffre entre ce que moi je lisais quand j'étais petit cul et ce qu'on a maintenant là, en termes de je dirais, de pas que Boulet Bill c'était mauvais, là, mais on est ailleurs et ça paraît.
On dépasse largement le strip, on arrive avec des récits qui sont complets, qui sont riches, qui sont complexes aussi. Il faut le spécifier, mais une belle complexité, là, dans le fond, dans la logique qu'on pourrait se faire du jeunesse et de récit en récit, on va jouer avec différents degrés, j'ai l'impression aussi, de cette complexité-là, de cette capacité de lecture. On est peut-être plus dans des mettons, autour de 10 à 10-12 ans avec Snapdragon, peut-être un peu plus dans ces eaux-là, je ne sais pas, en tout cas, bref. Mais dans tous les cas, effectivement, je te rejoins là-dessus, Edouard. C'est la première aussi que j'ai lue. Je ne sais pas trop, il y avait quelque chose en couverture qui appelait à ce qu'on la lise en premier d'un 4. Mais dans le fond, la variété, en fait, si on se limite, par exemple, juste au niveau narratif, la variété des narratifs qu'on suit à l'intérieur de ça. Donc, il y a l'histoire de l'héroïne principale, il y a l'histoire de sa relation avec sa mère, de sa relation avec cette vieille sorcière-là, il y a l'histoire de sa relation avec un ami qui devient progressivement une amie, il y a l'histoire de cet ami-là qui vit une grande transformation, il y a l'histoire de la sorcière qui vit également une arc narrative complexe. La mère, finalement, on se rend compte qu'elle vit une arc narrative de son côté et tout ça vient un peu à s'imbriquer tranquillement et tisse une trame sociale qui est quand même relativement complexe et qui se jouxte à une trame de quête de soi, de quête de métier, une quête magique un peu, à une mythologie qui s'ajoute là-dedans, et tout ça sans qu'on perde jamais le fil et la trace d'aucun des éléments narratifs qu'on développe.
Ça marque l'évolution aussi de la BD jeunesse. L'histoire de la BD, quand elle a été créée, et jusqu'aux années 60, ça s'adressait aux jeunes. C'est 60-70, là, les premiers lecteurs sont devenus des adultes et ont décidé de vouloir raconter des histoires aux adultes, alors des trucs plus matures, beaucoup plus réalistes, et sans changer grand-chose au format, en tout cas pour la BD européenne. Ce qui fait que pendant les années 70, 80, 90, la BD jeunesse a été mise de côté. Alors, on est resté avec justement ce que Edouard disait, les Boulet Bill, les tuniques bleues, et peu importe, les schtroumpfs, sans évoluer. Faire évoluer le récit puis le format. Alors, c'est la BD adulte qui, elle, a éclaté le format, a éclaté le contenant, a éclaté le contenu et qui a évolué. Et dans les années 2000, aller rechercher ce public-là, il a fallu que la BD jeunesse se réinvente. Et là, on a un excellent panorama de 4 façons de raconter la BD en noir et blanc, un roman graphique et... un autre qui joue avec Raven et l'ours, qui joue un peu avec... Et l'exemple de Snapdragon, c'est exactement ça. C'est un premier récit dans un roman graphique qui dépasse les 100 pages et plus. Et ça, c'est la preuve que les enfants ne sont pas idiots, sont capables de lire des trucs. C'est merci Mme Rowling avec son Harry Potter qui a prouvé que les enfants non seulement aimaient lire, mais pouvaient lire des choses consistantes en volume et en contenu. Et là, Snapdragon est un bel exemple de ça.
Oui, c'est un bel exemple, puis bien dosé dans tout ça, en fait, parce que encore là, c'est on pourrait s'attendre à ce que ce soit le récit plus mythologique qui soit développé, qui soit poussé, mais on n'est pas dans un récit classique de quête. En fait, il y a des éléments qui sont peut-être, tu sais, bon, dans Raven et l'ours, on est plus dans le récit classique typique, donc dans la quête avec objectif. Et dans Snapdragon, je trouvais que cette dimension-là était vraiment absente, dans le fond, dans les forêts que j'avais faites en BD jeunesse, plus à l'américaine, entre autres avec des auteurs comme Ben Atkey. Il y avait quand même la notion de quête, d'épisode, un côté action aussi, dans certains trucs, je pense aussi l'Empire Pao, Jack le Téméraire et autres, qui sont des bons titres, mais où on se retrouvait dans un schéma un peu plus classique, linéaire, si on peut dire. Et là-dedans, je le redis, je le réitère, parce que c'est vraiment ce qui m'a frappé, c'est l'explosion des trames, la complexité. En fait, c'est que c'est un récit qui pourrait être diablement complexe aussi à travers tout ce qui se croise à l'intérieur de ça, puis qu'on passe dans le fond d'un élément à l'autre, que c'est un peu imbriqué, qu'il y a des détails aussi des fois qui arrivent dans des cases ou qui ne sont pas nécessairement mis de l'avant non plus, et dans un contexte social qui est très, très actuel. Ça, je pense que c'est Edouard qui le mentionnait, avec justement, bon, la famille nucléaire, mais aussi, bon, les questions d'identité sexuelle, etc., etc., qui rajoutent aussi à ça. Donc, c'est riche comme récit. Là-dessus,
d'ailleurs, c'était quasiment se demander si les adultes de nos jours ne gagneraient pas plus que les jeunes à la lire, dans le sens que, premièrement, elle est construite de manière à ce qu'un adulte la lise, puis pas l'impression là, que ça cible un public trop jeune. Mais dans le sens que, moi, ma relation que je vois avec les jeunes, puis bon, je le vois avec mon fils, et puis quand il revient de l'école, tout ça, c'est des réalités qu'eux autres, ils connaissent déjà. Ça ne les surprendrait même pas, les réalités LGBTQ+, qui sont présentées, et puis il y a une assez vaste variété, d'ailleurs, là, là-dedans, là, pour eux, c'est comme normal. Ils ont déjà des amis, tout ça, mais les adultes, comme nous, oui, tout ça, qui ont connu plutôt les boules et billes dont on parle... Donc, par Édouard, ça peut être franchement porteur comme récit, justement, et puis intergénérationnel en plus. Hein, donc, il y a des gens de toutes les générations, il y a des personnages de toutes les générations dans ce récit-là, puis qui montrent aussi que ces réalités-là existaient déjà bien avant, mais qui montrent justement que c'est un combat qui a évolué hein, dans la l'appropriation des identités, de pouvoir les montrer sans devoir absolument se battre. Puis on voit que ce n'est pas nécessairement fini de toute façon. Là. Snapdragon vit dans un trailer park où c'est un peu plus conservateur à certains niveaux, particulièrement au niveau de la masculinité, là, de l'image de la masculinité. Mais moi, ça me fait penser que, mon Dieu, que je connais beaucoup d'adultes qui gagneraient à lire cette bande dessinée-là, justement pour comprendre comment le monde de nos jours est, dans quel monde on vit pour vrai, justement.
Oui, en fait, pour comprendre, puis pour voir aussi la complète absence de jugement qui est portée sur absolument tous ces choix-là, qui se valent, qui sont là, puis il n'y a rien qui est remis en question, qui est questionné, ça va, tout va de soi.
Il y a une méga diversité, en fait, en plus, parce que il y a des personnages qui sont noirs, d'autres qui sont blancs, des personnages qui sont vieux, d'autres jeunes et tout ça. Donc, c'est carrément la diversité de la vie hein, qu'il y a là, dans cette BD-là. Là,
oui, mais sans que ça nous soit asséné, sans que ça soit dit « voici une BD diversifiée, voici une BD...
Ouais, » Oui.
C'est une BD inclusive, mais qui ne le dit pas, qui n'en fait pas son fonds de commerce et, dans le fond, qui va de soi que c'est comme ça, point.
Ouais.
Ben, c'est qu'on en revient, en fait, justement, tu disais, bon, à la diversité, mais cette diversité-là n'est qu'un reflet d'authenticité. Et c'est ce qu'on retrouve dans la BD, essentiellement, une authenticité qui se traduit aussi, justement, par cet aspect tentaculaire. Parce que, bon, oui, la vie, c'est pas linéaire, là, justement, ça part dans plein de directions, ça entrecroise plein de réalités, plein d'intérêts, sauf évidemment, dans certaines BD. Je pense que c'est le cas, en fait, dans Zizi Chauve-Souris. Je m'explique dans la mesure où la construction qu'on a, en fait, est vraiment d'emblée, ben, encore une fois, apportée au crédit de l'auteur, mais elle réussit à rejoindre deux choses que je trouve très intéressantes dans la mesure où elle se présente en quelque sorte, en espèce de strip. On s'entend que, bon, il y a beaucoup de choses qui se passent, justement, qui se résolvent dans ces espèces de strips-là, dans ces espèces de bandes-là. Mais tout ça en gardant tout du long, de la page 1 à la dernière page, une espèce de point d'ancrage qui est là, bon, entre autres, le nouveau chum de la mère de Zizi, qui visiblement ne fait pas l'unanimité. Mais ça m'a vraiment fasciné, en fait. J'ai vraiment trippé sur cette façon, justement, d'aller à la fois mixer le strip et l'histoire en continu. Il n'y a que la BD, je pense, peut-être le cinéma, quand on tient vraiment un très bon réalisateur, mais au-delà de ça, je pense qu'il y a juste la BD qui peut nous permettre de jouer, disons, avec la réalité de cette manière-là, aussi fine, aussi intelligente.
C'est une des évolutions de la BD jeunesse. Dupuis a toujours, quand ils ont commencé à renouveler leurs auteurs et leurs héros jeunesse, ils se sont mis à garder le même format, le strip, la page gag, humour, mais avec une histoire qui se poursuit. Ce que faisait Schultz parfois dans ses strips quotidiens, il traitait d'un truc et il traitait plusieurs jours de suite avec la relance de l'histoire et en faisant des gags. C'est un petit côté américain, mais en tout cas pour Dupuis, ils ont commencé à installer ça avec, entre autres, Lou. La série Lou, où là, la petite héroïne qui est jeune, mais qui est en strip, deuxième album, déjà là, l'histoire est pour finir, faire des albums d'aventure continue sur 48 pages. La même chose pour les Nombris. Les Nombris, c'est ça. Là. Ce qui a fait le grand succès de ça, c'est qu'à un moment donné, après avoir installé les personnages, à un moment donné, le lecteur s'attache et veut voir vivre toute une aventure avec. Et surtout à développer, je pense que c'est développer les. Même si on fait du strip, les auteurs développent des personnages et ils veulent pas seulement les confiner à un gag ou une page. Ils développent le personnage et on fait en sorte qu'ils se mettent à vivre des aventures pour justement.
Mais peut-être la différence, puis on citait les exemples de Lou ou d'autres, mais dans le fond, c'est des aventures transformatrices où le personnage évolue, progresse, est confronté à des choix, des décisions, à des réalités. Ce qu'on n'avait pas nécessairement, si on reprend par exemple le Boulet Bill, et là on a l'air de ne pas aimer Boulet Bill, là, je pense que j'aime aussi beaucoup Boulet Bill, là. On s'entend, ça a bercé mon enfance, c'est pour ça, c'est mon exemple to go également, mais je ne sais pas si vous vous rappelez Boulet Bill Globetrotter, qui est comme c'est l'album forme longue de Boulet Bill dans le temps, mais au bout du compte, il n'y a pas de progression, c'est juste un long strip au bout du compte avec des séquences de gags, mais il n'y a pas d'avancée qui se fait par les personnages. Puis quand on va chercher les exemples que tu mentionnais, Marco, que ce soit Lou, Les Nombris ou d'autres, ben quand on tombe en forme longue, on se donne le droit aussi à l'évolution, on se donne le droit à faire évoluer la situation, sachant très bien qu'au terme de l'album, ben on ne pourrait pas retourner aux gags tels qu'ils étaient avant, à moins de faire des préquels.
Non, mais on cite Boulet Bill parce que c'est un bel exemple de ce qu'étaient les premiers albums, mais qui n'ont jamais évolué. Alors, rendu au 30e album, c'est pour ça qu'à un moment donné, c'est beaucoup, beaucoup de BD jeunesse, surtout chez Dupuis, qui avait ce format-là et qui ont conservé sans le faire évoluer. Ça n'enlève rien à la qualité de ce qu'avait fait Roba dans les premiers albums. Le gag était taille, le dessin était chouette, et ça a bercé nos enfances, effectivement. Là. Mais si tu ne renouvelles pas ça, ben dans le temps, ça finit par... Et surtout, à une époque où la BD a évolué, là, la BD, c'est autre chose, proposer un album jeunesse en noir et blanc, il faut le faire. Ça, la décision éditoriale de ça, j'aurais voulu être là quand ils ont décidé de faire ça. Là. Parce qu'ils disent sur la série, ils sont en noir et blanc.
Oui, en noir et blanc, puis je pense que c'est 3 albums aussi. Ce n'est pas une série qui a duré dans le temps non plus. C'est non, relativement c'est ça, bref, là.
Est-ce qu'on a switché sur Courtney Cromion puis je m'en suis pas rendu compte?
Non, on est toujours sur Zizi.
Non. Je vais le savoir, mais qu'on switch, là, Edouard.
C'est toujours Edouard qui fait ça habituellement.
C'est lui qui switch. Tout ça pour dire que proposer en noir et blanc. Moi, j'aurais voulu être là quand ils ont proposé le choix éditorial.
Je ne crois pas me tromper, mais je trouvais ça cool qu'Emilie, premièrement, je savais pas que cette série-là elle avait été faite par Trondheim et Guillaume Banco. Puis, si ma mémoire est bonne, les deux auteurs ont parlé de ce personnage-là à travers l'atelier Mastodonte. Là, quand Dupuis a demandé, a fait un trip de faire une série d'ateliers en strip, puis tout ça. Puis là, Guillaume tombait dans le même atelier que Lewis Trondheim, puis il vénérait quasiment. Est-ce qu'on pourrait faire un projet ensemble? Puis il avait développé ce personnage-là. Quand Émilie a proposé ça, je suis comme, OK, ils l'ont finalement fait pour vrai. Je trouvais ça sympathique quand même, mais on reconnaît, moi d'abord, c'était Lewis Trondheim que je trouve toujours un peu dans ses meilleurs moments parce qu'il est capable des fois d'avoir trop essayé pour pas être le fun. Mais là-dedans, on reconnaît encore sa touche magique qui s'éclate là, comme un fou à inventer toutes sortes de choses, là, puis qui le rend tellement savoureux quand il est au meilleur de sa forme. Là-dedans, j'ai eu un échange à un moment donné avec Émilie, le personnage là, du professeur de Yangtze, là, je veux dire, fallait y penser quand même là, comme concept. C'est des petites trouvailles comme ça qui sont absolument fabuleuses. Là.
Détailler
un peu. Encore une fois, on a une vieille Madame Badass.
Et dont le frère lui me semble comme deux gouttes d'eau, là. C'est je trouve très drôle.
Non, puis ça montre encore là, bien, on parlait au départ de variété des univers jeunesse. Je veux dire, là-dessus, on le disait, on en retrouve le strip, mais en même temps, c'est très éclaté côté narratif. Il y a un côté un peu absurde à assumer, mais quand même réaliste aussi. Donc, c'est pour moi, ce genre de BD-là, ça reste un jeu d'équilibriste aussi, où ça, ouais. On dirait que ça mélange un peu différents styles.
Une espèce de réalisme magique, si j'ose dire, là, où le personnage de jeune a son univers. Ben, il y a quelques BD qu'Émilie nous a fait lire qui font un peu penser au concept de Calvin et Hobbes. fait, le jeune, puis Zizi Chauve-Souris fit très bien là-dedans. Le jeune a son univers très, très riche qui semble fitter dans l'univers général, mais les adultes n'en voient absolument rien. Hein. La mère, elle pense qu'elle est partie chercher sa barrette. C'est toujours la barrette, la chauve-souris. C'est pas une vraie chauve-souris, dans le fond. Puis tout ça, c'est... Puis ça, ça a toujours quelque chose qui résonne pour l'adulte qui lit, je trouve. C'est encore là, c'est une bande dessinée qui devrait plaire aux adultes parce que, bon, en dehors du fait qu'elle sort en boîte de nuit dès le début, là... Mais il y a quelque chose qui résonne, on dirait, quand on rentre en tant qu'adulte qui ne peut plus nécessairement se laisser autant aller dans un personnage dont l'univers fait partie de la vie comme ça. Puis je trouvais que celle-là, elle était très, très bien réussie, un peu comme Calvin et Hobbes. Mm.
Oui, dans le fond, l'imaginaire qui devient partie intégrante du quotidien, dans le fond.
L'univers, oui. Mm.
Marco?
On observe aussi toute cette explosion de la littérature jeunesse. On voit les jeunes non seulement lire des trucs matures, volumineux, ils aiment la lecture, mais on les sent, ils vont décrocher très tard, même presque rendus à l'âge adulte avec des séries de jeunesse, à lire des trucs jeunesse. On l'observe en librairie, là, ils grandissent, puis, mm-hmm. mais ils continuent à lire du roman jeunesse parce qu'ils sont attachés, parce que ces univers-là leur parlent. C'est la même chose avec la BD, là, probablement que les jeunes, mais c'est une question d'éducation aussi. Là, probablement que les lecteurs de Zizi et Chauve-Souris vont filer ça, n'auront pas lu Boule et Bine, mais bon, Zizi et Chauve-Souris à leurs enfants et au prochain lectorat.
Et Émilie Roy-Brière, de ton côté, je te vois un peu réagir à tout ce qu'on dit autour de Zizi. J'ai l'impression que, et tu me disais peut-être un peu avant l'émission, que tu entretiens une relation presque amoureuse avec cette série-là.
Oui, bien, en fait, c'est parce que j'adore Zizi Chauve-Souris, mais je pense qu'il y a comme un tome qui sort aux 4 ans, quelque chose comme ça, parce que Trondheim et Bianco sont tellement pris par d'autres projets qu'ils n'ont pas le temps de s'y atteler très, très souvent. Mais bon, ça va, on est patients, on les aime, on leur pardonne. Puis tantôt, en fait, j'aurais voulu rebondir un peu sur ce que tu disais à propos des possibilités du strip par rapport au récit long. En fait, on a des éléments de récit long dans le strip. À mesure que ça évolue, là, je vous avais fait lire le tome 2, en fait, à la fin du tome 1, Zizi a été blessée par un grand garou qui est une créature magique, puis à partir de ce moment-là, à toutes les pleines lunes, elle devient une grande personne. Puis, à mesure que ça évolue dans la BD, j'adore ça parce qu'on commence à exploiter les possibilités narratives de cette espèce de super-pouvoir qui n'est pas tant un super-pouvoir, finalement. Puis, à la fin du tome 3, j'ai tellement hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça parce que là, il y a son voisin Hugo qui est... Son copain, pas son copain, on ne sait pas trop, ça dépend des jours, qui lui aussi a été blessé par un grand garou. Puis les deux finissent par se croiser sous leur forme adulte dans le bois pendant la nuit, puis ils ne se reconnaissent pas. C'est une scène hilarante. Ah, oh, ça vaut de l'or, j'adore ça.
Mais c'est extraordinaire, en fait, comment justement, le monde adulte devient une malédiction. En même temps, je peux comprendre très, très bien comment ça... Comment ça peut être ça, au-delà de tout. Mais aussi, et bon, on le voit un petit peu dans Snapdragon, mais je pense encore plus dans Zizi Chauve-Souris, cette façon, justement, bon, Jérôme, tu parlais de l'univers de l'enfance, mais justement, dans cet univers de l'enfance-là, ce qui, pour nous, souvent, à cause de construits sociaux et tout, est comme surnaturel et comme dégueulasse parfois. Tu sais, quand on dit « Ah, oh, un petit enfant », on le voit « Ah, oh, urk, une bibitte », tu sais, ça va lui développer le réflexe qu'une bibitte, un insecte, c'est dégoûtant. Alors que si, je sais pas, tu te penches avec, tu dis, regarde comment c'est fascinant, regarde les couleurs et tout, ben là, il va développer sa fascination pour ça. Et tu sais, Zizi s'avance là-dedans, justement, avec cette espèce d'absence, justement, de préjugés. Je veux dire, elle a une chauve-souris dans les cheveux. Je veux dire, la peur typique qu'on utilisait encore là d'archétype dans un paquet de BD jeunesse où on jouait avec, bon, les jeunes filles, oh, sont toujours effrayées, sont toujours... Non, elle a une chauve-souris dans les cheveux. C'est son copain, c'est sa bodée, il ne sucera pas le sang. Tout le monde sait ça maintenant. Tu sais. Mais c'est cette façon, cette bravoure, en fait, ce manque de peur devant le surnaturel. Et Dieu sait qu'on l'a dans Zizi, Dieu sait qu'on l'a dans Courtney Cromerin, où là, ben, on plonge, en fait, en plein monde des fées britanniques avec une magnificence. Je n'ai pas besoin de vous dire que j'ai trippé bord en bord. D'abord, oui, par le contexte, oui, par le personnage de Courtney et bien sûr d'Aloysius, mais d'abord et avant tout par le trait noir et blanc qui m'a tellement, tellement rappelé les belles heures de Mike Mignola, quand Mike Mignola faisait autre chose que des pages couvertures puis vaguement donner son nom à des BD douteuses. Là. La belle époque. Là. Maudit que le dessin de ça là, est extraordinaire. Le Hobgoblin, je l'ai adoré, mais tout dans Courtney Cromwell.
C'est dur à lâcher, cette BD-là, c'est dur à lâcher. En plus de ça, ben là, celle-là est hot, que ce soit une BD jeunesse ou pas, là, je veux dire, ne serait-ce que par la manière dont elle traite son sujet des fées, qu'elle fait d'une manière très, très intelligente. Il m'a rappelé le roman de Susanna Clarke, Jonathan Strange et Mr. Norrell, où tout, c'est pas gratuit. Les filles sont pas, c'est pas quelque chose de gratuit. C'est un univers implanté d'une manière X. Puis c'est pas, il y a pas d'effet, juste pour faire te faire cliquer sur le fantastique et tout ça. Il y a une partie subtile dans la raison que les filles ont d'être ce qu'elles sont, dans leur manière d'approcher les humains, les relations entre les deux. Puis là, évidemment, ben, la mythologie des magiciens, en tout cas, moi, ça m'a jeté à terre la mythologie développée dans cette série-là. On a juste envie de lire les autres. et puis là, ben, tu rajoutes la série sur le Sunday que tu dis là, Edouard, les planches sont absolument magnifiques. Là. Évidemment, le marché des gobelins, il faut voir ça au moins. Là, c'est vraiment hallucinant la manière dont c'est mené. Alors ça, c'est vraiment une BD qui m'a renversé. Tu es tombé dans nos cordes, Émilie, manifestement.
Non, vraiment, effectivement, je rejoins un peu ce qui est mentionné. Bien, d'entrée de jeu, en fait, quand on parlait sur Zizi du noir et blanc, bien, je veux dire, dans ce cas-là, on a vraiment du noir et blanc pur et dur, classique, qui me fait penser au club qu'on avait eu il n'y a pas très longtemps. Justement, on parlait de la dichotomie de la couleur. D'ailleurs, si les gens veulent replonger dedans, il est disponible en rediffusion sur laviebd.com. Mais dans le fond, les propos s'appliquent un peu là-dedans. Donc, d'emblée, déjà, on a le travail du noir et blanc. Donc, pour le jeune lecteur ou la jeune lectrice, bien, on s'en va vers d'autres styles, vers d'autres approches. Et un peu à l'image d'autres séries, bien, on commence avec des courtes histoires et là, tranquillement, dans le fond, on prépare le terrain pour des récits un peu plus longs, mais on a placé l'univers, on a placé des protagonistes, des personnages un peu plus humoristiques, un peu plus denses et le reste. Donc, on a placé l'univers. Et après ça, ben, quand on tombe avec des forêts plus entières, plus complètes, ben, le lecteur est déjà familier avec tout ça. Et tu l'as dit, Jérôme, je pense qu'on est en termes de construction mythologique aussi, c'est solide parce que ces récits-là, du moment où on perd le fil, où on commence à rajouter des règles ou des pouvoirs, puis qu'on se rend compte que finalement, ben, le truc qu'on a introduit à l'épisode 3, ben, il est trop OP, il est trop overpowered, puis finalement, ben, on est obligé de l'effacer de la série parce que ça sera en mesure de régler tous les problèmes, puis il n'y aurait pas 4 ou 5 autres livres par la suite. Exemple, un bidule pour voyager dans le temps qu'on introduirait au 3e tome d'une série. Donc, il y a, dans le fond, on essaie d'éviter ce type d'embûche-là. Et en même temps, ben, j'apprécie l'attitude des personnages aussi, et surtout le flegmatisme de la protagoniste, qui, au bout du compte, c'est tout ça va de soi. C'est normal, et comme c'est normal pour elle, bien, ça devient aussi normal pour nous. Donc, il y a une logique, mais il y a une normalité qui en rajoute, et en parallèle, justement, aussi de la normalité concrète à l'intérieur de ce récit-là sur les enjeux bon, de classe, de possession, de relations familiales, etc., puis tout ce qui est un peu sous le couvert des parents un peu imbéciles, au bout du compte, qui sont là juste pour le standing, juste pour la pose sociale, bien, ça met aussi... Ça agit comme contrepoids aux enjeux que la fille découvre. Donc, je trouve qu'il y a un bel équilibre dans cet univers-là aussi, qui me faisait penser peut-être à la limite un peu d'une version noir et blanc de Hilda aussi, si on fait des comparaisons de série en série. Je ne sais pas, Marco, Edouard, Émilie.
Ben, moi, ça me rappelait surtout, Édouard et Jérôme ont beaucoup parlé du trait. Moi, sans nécessairement être le trait qui m'a attirée, moi, j'ai toujours dit je suis une plot à scénario. Puis, en fait, comme introduction, ça me rappelait un peu les introductions des Tales from the Crypt avec le gardien de la crypte qui dit « Ah oui, je vais vous raconter une histoire horrible. C'est l'histoire de un tel et un tel qui sont rencontrés dans le bois la nuit. » Mais dans Courtney Cronin, c'est un peu le même genre d'introduction. On a le Hobgoblin au début qui est dans la forêt qui dit « Ah oui, donc on est dans la ville de, je pense que c'est Hillsborough, quelque chose comme ça. Il y a des choses tragiques qui se passent dans la forêt la nuit. Voyons ce que fait la petite Courtney Cronin. » Puis aussi, justement, j'adorais le fait qu'il n'y ait pas nécessairement de parents. En fait, les parents ne servent à rien là-dedans. Mais en fait, toutes les bandes dessinées que je vous présente, les parents servent à peu près à rien. Courtney, Dieu sait qu'elle doit s'arranger. Puis, elle va finalement s'inviter dans le monde des adultes, qui est l'espèce d'assemblée des sorciers qu'on trouve dans le tome que je vous ai fait lire. Puis, en ce moment, je suis en train de lire les autres aventures de Courtney Cronin, les tomes 4 à 6. Puis, ça devient doublement intéressant parce que dans celui que je vous ai fait lire, elle a complètement damé le pion aux adultes. Puis, elle n'y est pas allée de main morte. C'est assez impressionnant. Puis, personne ne se met fidèle parce que merde, elle a 13 ans. Puis, dans les tomes suivants, en fait, je suis en train de me rendre compte que là, elle va avoir des comptes à rendre. Puis j'ai vraiment hâte de voir comment le scénariste va se dépatouiller avec tout ça. Je me rappelle quand j'avais fermé cette bande dessinée-là, je me suis dit « Merde, ce gars-là, c'est vraiment un pur gothique. » Puis là, ça a comme donné un petit « oomph » dans mon cœur parce que c'était exactement ce dont j'avais besoin. Et je me dis, c'est comme avoir écouté des films de Disney toute sa vie puis tout à coup, pouf, arrive Beetlejuice. C'est un peu le même genre de choc.
Avec l'apparition finale du Seigneur de la Nuit, tu fais comme « Oh mon Dieu, mais ça finit de manière tellement magistrale là, comme album! »
Et ce qui est fou, c'est qu'on en parle avec des yeux d'adulte et on embarque à mort dans ce type de récit-là. Je veux dire, c'est sa note de jeunesse que l'étiquette, dans le fond, que le fait qu'on dise que c'est de la BD jeunesse, mais on est vraiment dans du tout public, mais qui peut bien s'apprécier par un public plus jeune.
L'affaire qui est importante là-dedans, puis moi, c'est ce qui m'a marqué, pour la lecture qu'ils font de la féerie, c'est qu'elle correspond plus à la féerie avant justement que Disney commence à la transformer. Celle d'Arthur Macon, même celle qui a intéressé Tolkien avant qu'il n'écrive son Seigneur des Anneaux, donc Algernon Blackwood. Bref, la féerie qui n'est pas là pour être gentil nécessairement. Il y a un épisode avec un changelin là-dedans, puis s'il y a une légende qui est assez... Mon Dieu, horrible, sombre, c'est bien celle du changelet. Bon, là-dedans, ça n'en devient... Elle finit par perdre son pathos, là, ça en devient drôle, mais quand même, c'est quand même une vision des fées qui n'est pas celle de la fée gentille. Puis ça, c'est se rendre compte à quel point c'est un univers qui est franchement très riche pour vrai, la féerie, à ce moment-là. Puis c'est à tout à l'honneur du scénariste de l'avoir fait. Bon, un peu justement, là, comme je disais, l'exemple de Susanna Clarke, là, qui était exactement ça pourquoi son roman était... hallucinant, là.
Justement, parce qu'il expurge ce monde féerique-là, justement, encore là, des cadres judéo-chrétiens. Bon, mon Dieu, j'en ai parlé il y a deux jours avec Claude Wolfenkopf. Mais encore une fois, je veux dire, c'est parce que c'était des univers qui ne s'y prêtent pas. Si on se met à définir le bien et le mal chez les fées, comme on le définit chez les gens, on passe à côté de quelque chose. On passe à côté d'une beauté. Justement, l'aspect du changelin, de ces trucs-là. Mais tout ça reflète à quelque part des racines justement qui remontent à mon Dieu, à des milliers d'années, là, l'univers celtique où, bon, tu sais, les dieux, c'était pas juste un dieu de gentillesse et de lumière qui pardonnait tout à la fin de ta vie. Là. Il y en avait des bons, il y en avait des plus tough, puis des fois, ben, il fallait que tu acceptes qu'il y ait du sang qui soit versé pour en apaiser quelques uns, tu sais. C'est ça la cour des fées, c'est ça l'univers de Courtney Cronin. Ça n'enlève rien à la noblesse ou à la grandeur de ce que certaines de ces fées-là ou à la petitesse de certaines de ce que ces faits-là peuvent être, mais reste qu'au final d'avoir encore une fois, et je réutilise le terme d'authenticité parce que je pense qu'il est canon dans les omniprésents dans les 4 BD, mais tu sais, dans Courtney Cronin, cette authenticité-là qu'on retrouve, ce lien qu'on retrouve avec des mythologies ancestrales, justement, si vous connaissez bien, bien, vous allez voir tout de suite le lien. C'est absolument extraordinaire. C'est absolument
extraordinaire. Pour les observateurs, il y a même un petit clin d'œil à Miyazaki. Je ne sais pas si vous l'avez tous vu.
Non, jamais de la vie.
Ben oui.
Tu l'as vu, Raymond? Oui. Je me suis demandé si j'avais rêvé, là, mais bon, c'est dans la salle des miracles. Un des artefacts qui est mis, c'est le masque de Spirited Away. Là.
Ah oui, mais d'ailleurs, pendant que tu me fais penser au plafond aussi, il y a Chitty Chitty Bang Bang.
Oui, c'est vrai. C'est ça, il y avait quelques références, là, justement, des trucs magiques de la culture pop, mais qui ne sont pas in your face. Là. C'est pas grave si tu ne sais pas, là, c'est juste comme un petit clin d'œil pour les fans. Là.
Oui, puis en fait, côté clin d'œil, c'est que ça devient aussi des récits porte d'entrée. Je veux dire, on parle de mythologie, d'univers des fées et le reste, mais si tu lis ça, tu peux avoir envie, jeune, moins jeune, d'en savoir un peu plus, un peu comme des BD comme Astérix vont t'amener vers l'histoire romaine ou vers la mythologie romaine. Du moment où tu ouvres ces portes-là, ça devient des moteurs d'exploration. Et tu peux partir de Courtney Cramfren puis aller à fond dans ces trucs-là, puis t'es partir à faire des filiations puis t'amener vers justement les titres qu'on mentionnait. Donc, du moment où tu sais que cette esthétique-là, cet univers-là te plaît, ou à l'inverse, mais comme Émilie mentionnait, c'est qu'on y va avec un peu un récit à tendance un peu gothique, et le reste, bien, OK, subitement, ça ouvre d'autres portes à certains univers, à certains types de récits. Et on a assez de matière là-dedans pour avoir envie de pousser plus loin, je pense, du moment où on est séduit par l'esprit général de l'ensemble.
Ben, tu sais, de Cumbrian à Lovecraft, il n'y en a qu'un pas, là. Ben, excuse-moi, je t'ai coupé, Marco.
Non. Pour ce qui est de l'univers, je vous fais confiance, là, vous êtes les spécialistes, même si on ne connaît rien. Je pense que c'est dû aussi à la construction du récit. Là, on mentionnait que mais ce qu'on a lu, nous, c'est un intégral en version européenne à grand format, mais à l'origine, et si ma mémoire est bonne, dans les années 90, c'était un comics. Oui. Alors, c'est pour ça ces petites histoires-là qui, amenées tous les mois, finissent par fonder les bases mêmes d'un univers, et surtout de cette qualité-là. Là. C'est ça qui fait en sorte que, même en intégrale, on plonge dedans, puis on se fait construire cet univers-là, et c'est la crédibilité de tout ça, même si c'est de la fiction. Alors, je pense que c'est dû au fait que c'était un comics à l'origine. D'ailleurs, ça a passé un peu inaperçu, mais ça a gagné plein de prix, les Eisner, entre autres, les récompenses américaines. Il y avait très peu de choses pour la jeunesse à cette époque-là, puis ça a remporté des prix.
Mais c'est sûr, c'est super bon!
Évidemment. Mais au-delà de ça aussi, je pense que, tu sais, je me le permets parce que, bon, c'est la dernière de la saison et tout. Bon, fait que je tiens quand même à souligner pour tous ceux qui nous écoutent que mes transitions sont faites maison, sans script et rien. Hein. C'est toujours sur la slide, c'est toujours sur l'inspiration du moment. Donc, je tiens quand même à me lancer des fleurs parce que je suis en fait, particulièrement extraordinaire là-dedans.
T'étais le John Woo des transitions, Edouard.
Et vous allez comprendre pourquoi, en fait, parce que quand on regarde ça, tu sais, portez un regard en bleu jusqu'à présent, comment un pépère a bien géré ça. Vous allez voir. D'abord, on a eu comme les adultes de Snapdragon qui sont alliés essentiellement tout le long du récit. On a eu nos adultes de Zizi Chauve-Souris qui sont pas mal antagonistes à tout le coup, en tout le moins. Bon, la mère n'est pas très aidante et le copain de l'autre, on y repassera. On a Courtney Cameron, où là, on a d'un côté les parents qui sont inutiles, l'oncle qui, lui, est fort utile. Et maintenant, ça nous amène à Raven et l'ours, où là, wow, les parents ne sont pas là. Il faut les trouver. Non, mais vous pouvez applaudir. Merci, j'essaie, là. Mais,
fait, comme on les enregistre par Zoom, il faut y aller avec les mains de jazz pour applaudir.
Oui, c'est ça. Des applaudissements silencieux. Des milliers de personnes qui m'applaudissent présentement. Mais donc, un autre beau point d'ancrage, justement, bon, on parlait de la relation avec les adultes. Eh bien, là, en fait, dans Raven et l'ours, les adultes, eh bien, justement, hein, on ne les a pas. On se rabat sur les compagnons qu'on peut trouver, mais avec une porte ouverte, justement, à un imaginaire qui, lui, est purement enfantin. Mm-hmm. On n'a pas besoin de composer avec cette espèce de réalisme cynique que nous imposent les adultes à toutes les fois qu'on les voit dans les scènes ou peu importe. Ici, on est dans l'univers de l'enfance, on se laisse porter par ça, et mon Dieu que ça fait du bien.
C'est vrai, il y a une légèreté dans ça, dans le trait aussi. Tu sais, dans le fond, on est vraiment. C'est peut-être des récits, celui qu'on peut associer un peu à l'aspect jeune public, mais au plus jeune public, en fait, parce qu'il faut quand même être capable de lire quand même pas mal de texte et le reste. Mais en même temps, puis je pense que c'est Marco qui disait, ou Edouard qui disait l'entrée de jeu, ou Émilie, en fait, quelqu'un le disait de l'émission, qui participe à l'émission le disait. On joue avec justement le storyboard. Donc, il y a quand même un jeu avec le quatrième mur aussi. Puis, dans le fond, l'album, le livre. Ça met un peu de connivence avec le lecteur pour nous amener vers cette histoire-là. Une histoire qui a une logique qui est un peu enfantine aussi, au bout du compte. Là-dedans, on est dans la cité aux énigmes, exemple. Dans le fond, tout le monde fait résoudre des énigmes. Tu deviens roi si tu résous une énigme. Tu rentres en ville si tu résous une énigme. Donc, c'est assez simple comme cadre, mais en même temps, ça va jusqu'au bout, cette simplicité-là, dans le fond. On pousse cette logique-là jusqu'au fond. Et ça nous amène très loin, finalement, dans l'exploration de la possibilité qu'une ville où tout le monde fait faire des énigmes offre, même dans le contexte d'un récit, quand même, somme toute, assez, un peu plus simple que les trois autres. Là.
Mais dans un contexte de BD jeunesse aussi, dans Ravenhill, ça fonctionne très bien, la cité des énigmes, parce que, en fait, les énigmes, on se rend compte que c'est leur économie. Il n'y a pas d'argent à gérer pour résoudre une énigme. Je pense que quand ils vont au bar, ils cherchent des indices pour essayer de... Pour essayer de retrouver les parents de Raven, il y a le bar qui est tenu par Madame Capivara. Puis Madame Capivara, elle est là dans tous les albums. À chaque fois que Raven et l'ours arrivent à un nouvel endroit, bien, Madame Capivara, elle est déjà là, puis elle sert des boissons. C'est absolument n'importe quoi. Donc, c'est super facile à gérer. Puis à mesure que ça évolue aussi, on a dans le tome 2 une cité où est-ce que tous les adultes sont redevenus des enfants. Puis ils sont absolument ingérables. Donc, en fait, c'est les enfants qui sont pognés pour faire des choses d'adultes. C'est la fille de la mairesse qui devient la mairesse parce que sa mère est partie s'amuser un peu trop loin. Donc, c'est les enfants qui doivent prendre des responsabilités. C'est vraiment super. Mais c'est pas ça que je vous ai fait lire. Je vous ai fait lire l'autre.
Il y a aussi cette nouvelle génération-là d'auteurs qui, avec tout ce qui s'est passé en BD dans les dernières années, les auteurs et le lecteur sait maintenant c'est quoi une BD et comment ça marche, comment ça se structure au niveau du récit. Et quelques-uns des auteurs en jeunesse, dont l'auteur de Raven et l'ours, s'amusent avec les codes, à les montrer, à jouer avec pour que le lecteur comprenne toute la démarche du storyboard, du quatrième mur, comme un fait un peu imbattable pour chez Dupuis. Mais il y a quelques auteurs jeunesse qui font de la BD comme ça, joie de lire en nombre quelques-uns, quelques auteurs où on s'amuse avec la narration à jouer avec les personnages, les paysages, les cases, la lecture, le sens de la lecture de la BD. Et là-dedans, c'est fait avec subtilité, puis c'est vraiment un petit chef-d'œuvre. Juste pour ça, le chapeau, ça montre comment la BD jeunesse, là, et la BD tout court, mais la BD jeunesse a su s'adapter assez rapidement. Ça devient ludique. C'est pour ça que c'est un peu passé sous le radar, Raven et l'ours, mais il commence à y avoir un intérêt maintenant. Je pense que les jeunes lecteurs ont ça aussi comme intérêt à pouvoir s'amuser à lire ce genre de BD.
Ben, comme tu disais, Marco, tu sais, plus tôt aussi, bon, tu parlais de Rowling, c'est qui a fait évoluer un peu les lecteurs. Ben, tu sais, c'était ça, je veux dire, on se rend compte que plus on leur en propose, plus ils en veulent, plus on leur amène, comme tu disais, tu sais, des récits avec une richesse, avec une complexité, avec ça, bon, ça n'empêche pas que Game Over vend encore très, très bien, que Kid Paddle vend encore très, très bien, tu sais, puis qu'il y a un créneau pour ça. Mais, je veux dire, avec toute cette information, toute la technologie auxquelles ils ont accès, je veux dire, on leur en donne plus, puis ça paraît qu'ils vont l'absorber, ils vont en demander encore plus, ils vont se plonger là-dedans, et c'est devenu indéniable, c'est devenu incontournable, et je pense que, tu sais, comme tu disais aussi, là, je veux dire, il faut que la BD pour adultes face à quelque part un examen de conscience, puis, ton jeune lectorat, prends-le de plus en plus tôt, amène-le de plus en plus tôt à qu'est-ce qui est la richesse de la BD, Puis un moment donné, ben, tu vas arrêter de te plaindre qu'ils vendent juste des trucs grand public puis des best-sellers. Puis tu vas avoir des lecteurs qui, dès le plus jeune âge, vont aller puiser dans quelque chose qui est plus
répertoire, entre guillemets. Tu as tout à fait raison. C'est une question de mentalité. Pour avoir passé, faire partie de jury dans lequel il y a un prix bande dessinée jeunesse, on s'aperçoit que les membres du jury, la plupart du temps, choisissent des romans graphiques pour jeunes, choisissent des trucs plus sérieux avec un message dedans. Et souvent, on laisse de côté ce genre d'ouvrage-là, ce genre de BD-là qui s'adresse à des jeunes. Tu sais, à un moment donné, on oublie à qui s'adresse. Et souvent, la première erreur qu'on fait, c'est de lire avec nos yeux d'adulte. Puis,
de se laisser plonger. En fait, c'est un nice to have que l'adulte prenne son pied dans ces récits-là, mais ils sont destinés d'abord à ce jeune public-là. Exact. Mais en même temps, c'est ça la richesse aussi de cette sélection-là. Je veux dire, c'est quatre bandes dessinées. Moi, je me verrais facilement les faire lire à mes gars, puis en jaser avec eux autres, puis partager un moment parce que moi aussi, je vais prendre plaisir. Puis le plaisir ne sera pas seulement limité à la conversation que je vais avoir après autour de cet univers-là, mais va être aussi dans la lecture. Et ce qui fait que le plaisir d'en discuter va venir d'un plaisir sincère d'avoir lu quelque chose de trippant, à la fois pour le jeune, à la fois pour le vieux. Et pas seulement d'une nécessité, d'une volonté de communiquer, si on peut dire.
C'était des albums fort agréables à lire. Là. Je veux dire, Raven et l'ours, on voit bien que le public cible est plus jeune et plus scolaire, mais il est construit et écrit d'une manière qu'on a du plaisir à lire là, en tant qu'adulte.
Alors, en fait, les quatre titres dont on a discuté cette semaine dans le cadre du club de lecture, donc je rappelle la thématique, les nouvelles héroïnes de la BD jeunesse. Alors, on parlait de Courtney Crumpin, donc le premier volume de l'intégrale de Ted Naïfès, c'est chez Akileos. De Zizi Chauve-Souris, on s'attardait au tome 2, 700 000 aventures par seconde de Louis Trondheim et Guillaume Bianco chez Dupuis. On parlait de Raven et l'ours, le premier volume de Bianca Pinheiro à la boîte à bulles, et de Snapdragon de Kat Lee chez Kinaillé. Alors, des suggestions qui nous étaient offertes, qui nous étaient amenées par Émilie Roy-Brière, que je remercie.
Ça fait plaisir.
Et également, ben, je remercie mes collègues pour l'émission de cette semaine. Donc, Marco Duchesne, Jérôme Vermette, Édouard Tremblay, un grand merci à vous trois.
Un plaisir comme toujours.
On est sur les bonnes étés puisque, on l'a mentionné d'entrée de jeu, c'est la dernière édition de La Vie en BD avant septembre prochain. Alors, si vous avez envie de plonger un peu dans les lectures, des éléments que vous avez ratés, eh bien, sachez que l'ensemble des émissions, ainsi qu'une série d'autres émissions, sont disponibles sur lavieenbd.com. Donc, allez y faire un tour. C'était Raymond Poirier. C'est un plaisir de vous accompagner en 2020-2021 pour La Vie en BD. Et on se revoit en septembre pour une prochaine saison. Donc, à très bientôt. Et merci d'avoir été à l'écoute.